L'interview
de Studio 45.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Surtout messieurs qui sont avec moi aujourd'hui. Donc d'abord, Jean-Louis Caffier, bonjour.
Bonjour.
Donc je suis très honoré de vous présenter Jean-Louis Caffier. Donc on va dire un nouveau venu sur Studio 45.
Ouais.
Et qui a un parcours vraiment très intéressant dans le domaine du média et qui est spécialiste dans la sensibilisation environnementale et le réchauffement climatique, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça, c'est bien ça, depuis une vingtaine d'années.
Et de mon côté, celui qui va m'accompagner pour cette interview, c'est Joël, que vous avez l'habitude d'entendre sur Studio 45. Joël, comment vas-tu ?
Eh ben ça va bien, bonjour Jean-Louis,
bonjour Romu.
Eh bien aujourd'hui, c'est une interview dédiée à Jean-Louis Caffier, donc qui va nous présenter son parcours dans le média, mais aussi nous présenter sa spécialité autour de l'environnement et le réchauffement climatique. Donc tout d'abord, Jean-Louis, je voulais te poser la question de savoir d'où est venue ta spécialité pour le journalisme et pourquoi as-tu choisi l'environnement ?
Alors, moi, ça fait beaucoup de questions. Hein. Le journalisme, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père journaliste, déjà. Donc, j'ai vécu dans mon enfance et adolescence, à l'époque, ce qu'on appelait le marbre à l'Est républicain à Nancy. On sentait le plomb qui fondait pendant que les linotypistes se tapaient les textes. Les journalistes, c'était une autre époque. Hein. Elle était, pour moi, assez savoureuse. Donc, j'ai adoré ça. Et quand il a fallu, après le bac, choisir quelque chose... Mon père m'a encouragé à suivre ses traces, donc j'ai été à l'école de journalisme de Strasbourg, et j'ai passé une licence là-bas avant de commencer à bosser à l'Est républicain aussi, à Épinal, et puis à France 3, et puis ailleurs.
Un choix vraiment familial.
Oui, j'étais influencé par mon papa, qui a fait pas mal de bonnes choses dans sa vie, qui a beaucoup voyagé, qui a couvert des trucs incroyables, des Jeux Olympiques, il était... En ce moment, on parle beaucoup des relations France-Algérie. Il était à 15 mètres du général de Gaulle quand il a lancé à la foule, je vous ai compris. Quoi. Donc, il était en reportage là-bas et moi, j'ai vécu ça. Et puis, ses voyages à la NASA, plein de trucs. Enfin bon, il m'a beaucoup influencé là-dessus.
Et c'est quoi qui vous a le plus plu dans le métier de journaliste ?
Eh bien, c'est l'aventure. C'est l'aventure humaine. C'est les contacts, c'est les histoires, belles ou pas belles. Mais c'est la vie en général. Je dis, pour être journaliste, il faut avoir une volonté de découvrir et d'aimer le monde tel qu'il est, même s'il est parfois pas très beau, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et l'histoire du journalisme, c'est ça, c'est regarder, écouter et puis essayer de raconter après.
Et pourquoi avez-vous choisi le domaine de l'environnement ?
Alors, moi, j'étais très intéressé par les sciences depuis que j'étais tout gamin. Là, j'étais abonné à Tout l'Univers, c'est une revue qui montrait... les dinosaures, l'espace, la biologie, enfin plein de trucs. Et j'ai donc commencé, quand j'ai commencé à bosser sérieusement, j'ai toujours fait beaucoup de reportages ou d'émissions consacrées aux sciences. Et je l'ai fait d'une manière très hebdomadaire à LCI. Et c'est là que sont sortis les premiers rapports du GIEC, donc le groupe international intergouvernemental d'experts sur le climat. Et avec des invités qui étaient là, je me suis dit, si ce qu'on nous raconte là aujourd'hui, donc à la fin des années 2000, se confirme, ce sera le sujet majeur, toutes disciplines confondues, du 21e siècle. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner tout le reste de mes activités pour me consacrer uniquement au climat. Et donc, quand on s'intéresse au climat, on s'intéresse à tout, en fait. Parce que le climat, c'est beaucoup l'énergie. Et oui, l'énergie, c'est notre vie de tous les jours, c'est l'alimentation, c'est les transports, c'est le logement, c'est la radio,
c'est sûr,
c'est plein de choses.
C'est vraiment le sujet phare de notre période, hein, de notre société, donc forcément, toi, Joël, t'as un petit mot par rapport à ça ?
je dirais que de toute façon, le climat, c'est notre ciel, c'est celui qui nous protège, c'est notre toit. En fait, et notre planète, la planète, c'est notre maison. Donc, si on prend pas soin de notre maison, si elle s'écroule sur nous, ça va pas aller longtemps.
Et comment vous percevez, le traitement médiatique autour des questions écologiques depuis vos débuts et forcément à aujourd'hui. Oui. Ça a dû bien évoluer, je pense.
Ça a un petit peu progressé, mais je dirais pas de manière très très significative. Il y a curieusement une sorte de réticence vis-à-vis de tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche au climat. Il faut savoir quand même en France qu'il y a près de la moitié de la population qui doute de la réalité du réchauffement climatique ou qui doute de l'origine humaine de ce réchauffement. C'est quand même extraordinaire. Mais bon, moi, j'ai vécu dans les rédactions, comment dire, une certaine forme de mépris. Enfin, on était des babacools, quoi, quand on parlait d'environnement, de biodiversité, d'écosystème, alors que c'était des sujets entièrement documentés, donc ils font l'objet d'études et de publications dans les revues scientifiques, quoi. C'était hallucinant, mais 2-3 anecdotes. J'avais proposé, moi, à LCI, au patron de l'époque, de créer vraiment un service dédié à l'environnement et surtout au climat et à l'énergie, parce que j'avais beau lui expliquer que ça allait être le sujet dominant, il y croyait pas. Il m'avait répondu, je vous cite la phrase qui m'est restée en mémoire, « J'ai pas de fric à te payer, à t'occuper que de ces conneries. »
Ah, ah
donc,
oui, quand même.
Ce monsieur est devenu ensuite directeur de la rédaction du groupe TF1.
Ah d'accord, ça en dit long sur...
sur la perception voilà, du groupe TF1 ou surtout...
Alors moi j'ai quand même essayé de lutter contre ça en créant une association avec un ingénieur bien connu qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, et on a dit puisque les médias parlent pas bien de ces sujets, on va les former. Et donc on a pendant 10 ans invité une 30aine de journalistes à passer un week-end au pied du Mont-Blanc en faisant du ski le matin et des conférences de haut niveau l'après-midi sur les réalités du climat et de l'énergie. On était financés par l'ADEME, par la SNCF, par des gros acteurs du secteur. Et on était tous bénévoles, bien sûr. Donc ça a un peu fait évoluer les choses dans les rédactions. On a quand même formé 300 journalistes en 10 ans. C'est pas tout à fait rien, le résultat est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait. Quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes sont suffisamment formés ou sensibilisés par rapport au sujet de l'environnement, ou est-ce que par rapport à votre connaissance de cause?
Oui, ça a beaucoup progressé, hein. D'ailleurs, lorsqu'on faisait à Combloux, donc au pied du Mont-Blanc, là, on a invité des directeurs d'écoles de journalisme, Lille, Paris aussi, pour justement les sensibiliser là-dessus et créer des filières qui respectent cette discipline qui est nouvelle, hein, c'est ça, hein, c'est neuf, hein, je veux dire, il y a plein de trucs dans les écoles de journalisme, il y a de la géopolitique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a du sport, mais l'environnement et le climat, il n'y avait pas. Et là, c'est en train de changer quand même.
Et même dans les écoles aussi, on intervient aussi beaucoup par rapport à ça, la sensibilisation de l'environnement et au réchauffement climatique.
Bien sûr.
Et est-ce que vous analysez aussi une progression, que ça soit politique, mais aussi citoyenne, face au dérèglement climatique?
Oui, oui, il y a des changements. C'est pas très ancien, hein. Ça se fait petit à petit. Le problème du réchauffement climatique, c'est que pendant des années, on a dit « Oh là là, attention, on va peut-être prendre 3-4 degrés à la fin du siècle prochain ». Et ça paraissait tellement loin qu'on avait le fameux débat « fin du monde, fin du mois ». Quoi. Et c'était pas du tout une priorité, parce qu'on a assez de soucis comme ça, on a assez de difficultés, sans s'en remettre davantage avec des trucs qui vont se passer dans un siècle, c'est pas ça. Mais maintenant, et ici, on le voit à Gien, on le voit à Briard, où je suis, les gens voient dans leur jardin que le changement, il est en route. Quoi. On n'est plus du tout sur des échéances très très lointaines, on est sur des préoccupations locales, importantes. Il y a l'aspect de l'eau, il y a l'aspect de la sécheresse, des canicules. Je veux dire, ici, dans la région, chez les maraîchers de Dampierre, on remarque qu'il y a des choses qui changent, qui sont en avance ou qui se passent plus.
Sur la production.
Ah oui. Il y a un gros danger et une grosse menace sur la production agricole. Les rendements ont commencé à baisser assez sérieusement ces dernières années, parce que la sécheresse, c'est pas bon pour les plantes, c'est pas bon pour les légumes, c'est pas bon pour les arbres fruitiers.
De combien de pourcents environ
C'est en cours d'évaluation, mais il faut compter entre 10 et 15%.
Ah oui,
dans certains endroits, pas partout, mais ça dépend si c'est très variable. Il y a des régions qui sont beaucoup soumises aux orages et aux grêles qui se manifestent, et notamment le cas dans le vignoble du Ginois, hein. On n'a pas encore trop souffert, mais en Bourgogne, il y en a des trucs qui se passent. Et c'est très différent. Des régions, il peut y avoir des sécheresses, ou à l'inverse, il peut y avoir des inondations aussi. C'est ce qui s'est passé l'an dernier, il y a beaucoup de cultures qui ont été complètement submergées par la flotte et qui n'ont pas donné du tout les rendements espérés. Donc vous voyez, on est déjà dans le dur,
dans le dérèglement
et dans les conséquences. Ça touche des trucs très très concrets, très très quotidiens pour nous,
c'est sûr.
L'alimentation notamment.
Et même la sécheresse, hein, on peut en parler aussi, je pense. On a eu une très grosse sécheresse l'année dernière et je pense qu'on voit ça aussi par rapport à la récolte, mais aussi aux productions agricoles. Ça a été une année très difficile.
Oui.
Le rendement était inférieur à l'année dernière sur pas mal de plantes. ça s'est vu tout de suite, hein.
Oui. Oui, c'est sûr.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est à partir d'un phénomène comme celui-là qu'on voit que la crise climatique débouche sur d'autres crises.
Ah oui.
Crise climatique, donc, grandement inférieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix vont monter.
Voilà. C'est sûr.
Ça veut dire que celui qui va acheter, ben, aura moins de pouvoir d'achat. Mmh. Ça veut dire donc crise sociale derrière. Et vous voyez ce que je veux dire? Tout ça s'enchaîne en permanence.
Prise de conscience du client lambda qui va faire ses courses et qui se dit faut s'adapter.
Oui, bien sûr.
Mais je voulais poser une question par rapport à ça. Est-ce que le concept de sobriété énergétique vous paraît-il applicable à grande échelle? Est-ce que la France, notamment, est un bon exemple? Est-ce que c'est un bon élève par rapport à tout ça?
Alors, la France est un très bon élève par rapport à la production d'électricité.
D'accord.
C'est même le meilleur élève du monde parce qu'on a des centrales nucléaires, donc Dampierre et Belleville, ici, dans la région. Tant mieux.
Et on est gâtés.
On a aussi pas mal d'hydraulique, faut jamais l'oublier, mais c'est quand même 10-12% de la production d'électricité, donc c'est bien plus 80% sur le nucléaire, donc on est couvert. Et maintenant, l'électricité, c'est pas tout. C'est pas toute l'énergie qu'on consomme, loin de là. On est, je crois, 17-18% d'énergie consommée en France qui est de l'électricité. Ça veut dire qu'il en reste quasiment 80% à l'extérieur, et cette énergie-là, c'est quoi? C'est du gaz. C'est du pétrole, et c'est encore un peu de charbon, notamment dans les cimenteries, dans l'industrie lourde. Voilà. Donc, vous voyez, le nucléaire, on polarise là-dessus, mais ça représente assez peu, finalement, à l'arrivée, par rapport à l'énergie qu'on consomme. Alors, la sobriété, elle passe dans tous les secteurs par moins de consommation d'énergie. Ça veut dire, dans l'ordre, le bâtiment. Il faut absolument rénover les bâtiments, il faut les isoler, il faut dans les transports, il faut laisser tomber le pétrole et la voiture à essence pour des transports en commun, pour
prioriser aussi la marche à pied.
Et tout ça, il faut. Moi, je dis pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut voir le problème dans son ensemble. C'est-à-dire que si on veut supprimer des bagnoles ou supprimer des transports par pétrole, il faut qu'il y ait une solution.
Oui.
Si on veut les mettre 2-3 vélos, ça suffit pas. Si on veut faire des distances un peu plus longues, ou si on veut
faut vraiment trouver une solution sur adaptation, chaque manière de se déplacer, que ça soit à longue distance, mais aussi à petite distance.
Oui, parce que c'est facile de dire on arrête ça, mais on met quoi à la place?
C'est
moi
sûr.
J'ai besoin de conduire mes enfants à l'école le matin, c'est à 10 km, qu'est-ce que je fais?
Je vais en
dire. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc il faut
en vélo avec toi.
Alors c'est-à-dire qu'il faut revoir un certain nombre de choses concernant l'organisation et le quotidien de ce qu'on vit, mais c'est un truc qui peut être intéressant, hein. Ça peut être même passionnant pour trouver des solutions communes, pour faire, je sais pas, on partage, vous voulez voir, d'être 4 parents à choisir 4 voitures différentes pour conduire le même gamin à la même école, on va peut-être essayer de se regrouper, par exemple, c'est pas stupide.
On privilégie le covoiturage aussi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Joël, t'as une question ou un petit, mot pour Jean-Louis?
Je vais dans le sens de Jean-Louis, effectivement, il faut diminuer sa consommation. On peut diminuer d'un ou deux degrés la chaleur l'été. On peut éviter de se servir de la clim trop. En été, parce que c'est gourmand, non? C'est gourmand.
Même bien être
des gestes du quotidien, pour l'alimentation, c'est pareil. On peut manger, environ 30% de trop. On mangerait 30% de moins, on serait en meilleure santé, en fait.
Il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gâchée.
Il paraît qu'on mange, si on mangeait 30% de moins, on serait en meilleure santé parce qu'on mange trop, en fait.
Oui, bien sûr. Oui. Donc, mais tout ça, c'est à revoir. Et puis on mange trop parce qu'il y a beaucoup de
malbouffe.
De malbouffe aussi. Et puis il y a beaucoup de produits qui sortent. Il y en a trop.
Même,
mais là, ça fait partie des choses qu'on doit aborder de front, réfléchir. La climatisation, par exemple.
Ouais.
On le sait pas, mais c'est la bouffe de l'énergie. C'est d'une manière incroyable. La climatisation aux États-Unis, ça représente la consommation électrique de l'ensemble du continent africain.
Climatisation
aux États-Unis, c'est l'Afrique électrique.
Ouais. D'accord.
Et ça équivaut à combien au total?
Ça doit être construit. Mais de toute façon, une clim, c'est vrai, elle consomme plus qu'un chauffage. Une clim réversible, en fait, quand on chauffe l'hiver avec un système RR, c'est pire quand on refroidit que quand on chauffe, en fait. Et on rejette en plus de la chaleur dans l'atmosphère, donc quand il fait chaud. Donc C'est vrai qu'il faut éviter. Bon, je dis pas, c'est vrai qu'on a besoin d'un confort, mais on peut la mettre une heure avant d'aller se coucher, par exemple, dans une chambre, mais pas toute la journée.
Oui, voilà. Ou même anticiper des heures creuses aussi. Des heures où il y a le moins de, comment dire, de mouvements énergétiques, forcément.
Oui, mais on veut dire, même l'hiver, on met le chauffage à 18-19 et on met un pull, quoi. C'est des choses qui sont simples à faire, mais qui ont du mal encore à s'imposer. Il faut faire passer les messages, il faut redire. Oui, ça sert de faire ça. Ça sert pas parce que je suis tout seul, qu'est-ce que je vais mettre la température chez moi à 18, c'est ridicule. Mais si on est 60 millions à le faire, c'est plus tout à fait la même histoire.
Exactement,
c'est sûr. Donc, voilà, il faut encourager tout ça. Il faut pas se dire que ne faire qu'à son niveau, ça sert à rien. C'est pas vrai. Et je veux dire, faire à son niveau, ça veut dire que nous, on va faire des efforts, on va baisser l'alimentation, on va baisser le chauffage et tout. Il faut que les gros fassent pareil. C'est la stratégie du colibri. Hein, c'est ça. Il faut que les entreprises suivent ce qu'on peut faire. Il faut que les consommateurs interviennent aussi pour dire, monsieur, vous m'avez vendu ça la dernière fois, j'en veux plus. Parce que telle ou telle raison, l'emballage, la provenance et des choses comme ça.
Aussi la consommation énergétique, forcément.
Voilà.
Il faut privilégier du coup les couvertures, qu'on est sur le canapé. Pas mettre à 28 degrés le chauffage. Effectivement, oui, c'est sûr. On va passer, on va dire, à une partie plutôt plus contracte, si on peut dire. On va laisser un petit peu le côté environnement, je pense. Donc ça serait plus personnel les questions. Donc Jean-Louis, vous n'êtes pas peut-être pas originaire de notre territoire. Vous êtes de Belfort, c'est ça?
Non.
Ah non.
En fait, c'est pas une mauvaise réponse parce que je suis de nulle part. Ah. Alors, je vous la fais vite. Ma famille est de Boulogne-sur-Mer. J'ai été conçu à Reims, je suis né à Nancy, j'ai fait mes études à Strasbourg, j'ai commencé à bosser à Épinal, ensuite je suis allé à Besançon, je suis allé à Paris, je suis allé à Luxembourg, je suis allé à Monaco, je suis revenu à Besançon et j'ai fini à Paris. Donc voilà mon parcours, vous voyez.
Oui.
Si je suis dans le coin, c'est parce que la première fois que j'ai découvert la région, c'était sur le pont canal de Briare. J'ai habité sur une péniche pendant une trentaine d'années et on remontait de Besançon jusqu'à Paris et je suis passé par le pont canal pour arriver dans le 13e à Paris. Et donc voilà, et puis j'ai découvert Briare plus tard parce que ma consoeur Marie-Odile Monchicourt organisait une conférence avec Hubert Reeves qui avait rempli le centre social à Briare, notamment sur le climat. Elle m'avait demandé de faire une introduction sur les dernières infos climat en France et ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça que je suis resté ici parce que j'ai découvert que la ville de Briare était sympa. Moi, je suis attiré par les canaux, le port et tout. Moi, ça me dit. Hein, on habitait à Paris pendant longtemps. Et
ça doit changer quand même.
Passer de Paris
à Briare.
Oui, non, mais c'est sûr. Mais on est toujours sur l'eau.
Oui, mais effectivement, à Paris, ça ne doit pas être désagréable non plus.
J'ai été quai d'Austerlitz et quai de Bercy au pied du ministère. Ça a été génial.
On n'est plus à Paris, quoi.
Plus ou moins, mais on a une terrasse, on peut faire des trucs, peut faire beaucoup de musique la nuit avec les amis, il n'y a pas de souci, on ne dérange personne. Enfin, non,
il n'y a pas de problème de voisinage.
C'était bien. Donc voilà, c'était ça, une double rencontre. Le pont canal, la flotte, les canaux, les péniches et cette conférence sur le climat. Et puis j'ai cherché une maison de campagne et j'ai trouvé une à Briare. Et puis au moment du Covid, on a quitté Paris pour venir davantage s'installer ici. On a
du côté de Briare. Du coup, vous avez trouvé votre bonheur vraiment dans le territoire.
Voilà, donc il a fallu s'installer quelque part pour les retraites, n'est-ce pas? Parce qu'on hésitait un peu entre Besançon, où on avait vécu aussi, et puis Briare. Puis finalement, on a choisi Briare qui correspondait mieux à nos aspirations de plaisir, de tranquillité, d'amitié, d'initiative locale aussi, parce qu'il se passe beaucoup de trucs ici, quoi, je veux dire. Moi, j'adore, quoi, voilà. Là, je suis intervenu dans un collège, là, en début de semaine, pour parler du métier de journaliste, tout ça, devant les collégiens de 4e, 3e, moi, j'adore ça. Là, ici, on est ensemble.
Effectivement, ça se fait
sur LCI
45,
ou BFM TV, mais moi, ça me branche bien.
C'est plus des contraintes.
oui, bien sûr, sans contraintes. Et puis, voilà, si je peux raconter des choses aux gens qui nous écoutent, ce sera
avec grand plaisir. Ouais.
Voilà, et puis tout au fil de l'année, tu nous prodigueras des conseils.
Oui.
Hein, pour ça c'est bien. Il faudra
s'adapter. Écouter, hein. Bien sûr. Ce qui se passe ici, on peut le décliner parce que c'est comment dire. On a un problème global et des solutions qui sont souvent très locales. Donc c'est ça qui est intéressant quand on a une radio locale aussi.
Effectivement.
C'est de dire, il y a des choses qu'on peut faire, quoi.
C'est sûr. Et puis, nous, on est très, très fiers de, vraiment représenter notre territoire, parce que c'est vrai que.
Bien sûr.
Une radio génoise, c'est pas souvent, hein. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus une radio génoise. Hein. On a voulu redémarrer ça,
Ben voilà,
malgré tout.
C'est l'occasion de s'exprimer.
Effectivement, c'est ça. Puis aussi de rassembler, voilà, tout, on va dire, pas nos différences, mais tout, nos échanges, nos partages, voilà, nos savoirs. Et c'est ça qui est bien avec Studio 45. Eh bien, bah, soyez les bienvenus à Studio 45, hein, Jean-Louis.
C'est gentil, je suis ravi.
Et puis, bah, Joël, t'as un petit mot, un petit dernier mot pour conclure cette interview.
Je suis ravi de faire partie de cette aventure. Hein, et même si je fais des chroniques musicales, le sujet m'intéresse au point, parce que j'ai écrit beaucoup de chansons justement sur pour sensibiliser les enfants, dont un spectacle qui s'appelle « On va sauver la planète ».
Ah, oula.
Et il n'y a que des thèmes sur l'écologie, le recyclage, l'alimentation, etc.
Donc, c'est vrai que ça en lien, oui.
Voilà, donc on est proche, très proche du sujet. Et c'est je crois que bah, c'est bien, parce que sur une prise de conscience avec un côté ludique et des chansons pour les enfants, en fait, c'est aussi les amener à dire je vais essayer aussi de faire quelque chose moi-même. Les enfants sont très volontaires.
Oui, mais les enfants, c'est important, parce que derrière les enfants, il y a des parents, il y a des grands-parents, et quand les gamins sont sensibilisés là-dessus, et puis qu'on leur dit, bah, tiens, attention, il y a un machin qui va pas, ils en parlent aux parents et aux grands-parents, et ça peut les faire bouger aussi.
Exactement.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Voilà.
C'est les enfants, c'est source de vraiment de l'avenir. Hein. C'est ça aussi.
C'est pas un avenir très gai qu'on leur promet forcément, mais bon,
oui.
il faut
leur laisser le meilleur qu'on peut. Hein.
Il faut s'adapter.
Effectivement.
Oui, on va s'adapter, on fait confiance. Je crois que l'être humain, j'espère qu'il est pas assez, qu'il est suffisamment intelligent pour s'adapter. Voilà, on espère tous.
Oui, on l'espère, on le souhaite. Eh bien, merci beaucoup, bah, déjà d'abord Jean-Louis,
d'avoir
pu accepter cette petite interview pour vous présenter, mais aussi de parler de votre parcours dans le journalisme, mais aussi de votre spécialité dans l'environnement et la sensibilisation dans le réchauffement climatique. Oui. Et puis, Joël, je te remercie beaucoup d'avoir pu te joindre à nous deux.
Avec plaisir.
Et voilà, donc, on conclut cette interview avec un grand remerciement à vous, chères auditrices et auditeurs de Studio 45, de nous avoir suivis pendant presque un an, parce que on va souffler bientôt nos premiers bougies, hein, parce que ça serait, on est dans la période de début mai. Et forcément, on grandit, l'association s'est fondée, et puis voilà, très prochainement, on va peut-être, pourquoi pas, l'essouffler, voilà, avec un grand événement. Hein. Donc, je le dis en exclusivité.
C'est un scoop,
oui, effectivement. D'accord.
Ah ben avec plaisir.
Donc on vous confirmera du coup la date, on vous redira tout sur nos antennes et aussi sur les réseaux sociaux.
De venir.
Effectivement. C'était la grande occasion, je voulais le faire ça voilà comme par hasard, hein. J'ai pris le beau moment, je pense.
Bah écoute, oui, ça va. Alors la date exacte de l'anniversaire déjà.
Alors, la date exacte, alors vraiment sur la diffusion, Studio 45, c'était au mois de mai.
D'accord.
Ça a débuté en mai.
Et ensuite, l'association s'est formée
en octobre.
En octobre,
voilà.
Oui, voilà.
Donc, on va dire pour le premier anniversaire, on va se mettre vers octobre.
Oui, parce que mai, ça fait un peu tard, là.
Oui, ça fait un peu tard, oui, effectivement, oui.
Un peu tard, de 14 juillet.
On a le temps de mettre les préparatifs en place, donc c'est ça qui est magnifique. Eh bien, messieurs, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Et puis à très bientôt sur Studio 45.